Bienvenue à la French Connection, épisode 123. Cette semaine, je suis avec Damien.
Salut tout le monde, salut Nico.
Ça va très bien?
Pas mal, écoute, un mois d'octobre ici, du côté de Lille, dans le nord de la France. Le soleil est aux alentours de 26 degrés, la plage est chaude et les femmes sont nues. Bien sûr, tout ceci est totalement faux.
Du haut de notre 4 degrés Celsius à Québec, c'est assez mourant. Donc, commençons par les Shameless Plug. Je crois qu'au moment de la diffusion, il va y avoir l'événement Isaac à Québec, congrès international de l'opportunité et des défis des technologies émergentes. Je crois que Steve Waterhouse va être présent, donc allez-y, sinon on aura des nouvelles à ce sujet au prochain épisode. 1-2 novembre, le Hackfest, dans lequel Damien donne une conférence, je donne une conférence et nous donnons une conférence ensemble. Donc, ça va être tout à fait chouette ce qu'on va pouvoir vous jaser à ce moment-là. Et le 20 avril, l'événement Secure revient pour une deuxième année. Donc, commençons avec les nouvelles. Un hébergeur et ses 2100 clients sont piratés.
Oui, alors j'ai trouvé ça cette nuit. Alors là, on enregistre en fait le 5 octobre. Et en fait, dans la nuit du 3 au 4 octobre, je regardais au-dessus de l'épaule de pirates informatiques qui discutaient nonchalamment, mais dans un lieu privé VIP, comme ils l'appellent. Eh bien, ils étaient en train de préparer clairement leur business plan d'une vente de données informatiques. Alors, je vous cache pas qu'au départ, je me suis dit, tiens, ça a l'air de parler, comme d'habitude, de 2-3 sites malheureusement malmenés sur lesquels ils avaient volé les bases de données. Et puis tout allait bien. Et sauf qu'au fur et à mesure de la conversation, et plus je pouvais rester, parce qu'il ne m'avait pas repéré, donc ça m'arrangeait, je me suis rendu compte en fait qu'il proposait exactement, alors accrochez-vous bien, pour cette unique vente, exactement 2057 bases de données piratées. En gros, ils ont tapé dans un hébergeur. Alors ce piratage ne date pas d'hier, hein. Ça date, je crois même, du mois d'août. C'était l'hébergeur VapHost et ils ont volé donc 2057 bases de données, donc appartenant à 2057 sites web complètement inconnus, hein, mais en tout cas avec des données contenues, parce que ce qu'ils vendent, eh bien, c'est les bases SQL avec les noms, les prénoms, les mails, les mots de passe. Alors comment je le sais? C'est qu'heureusement, on a encore affaire à des gens qui font d'énormes bêtises. Alors, vous doutez bien que je ne vais pas vous expliquer comment j'ai accédé aux informations. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en suivant leur conversation et dans les données qu'ils diffusaient, j'ai très vite pu les suivre et me retrouver dans un cloud connu du monde entier dans lequel on peut rentrer si on a les logins et les mots de passe, ou alors on peut rentrer quand les intervenants oublient de mettre un login et un mot de passe. Et donc, du coup, tranquillement, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je suis allé voir. J'ai regardé l'intégralité des dossiers, j'ai regardé l'intégralité des contenus pour prendre en tout cas toutes les marques, en tout cas tous les sites qui ont été impactés. Et puis je propose sur mon blog que les gens souhaitant savoir s'ils sont impactés me contactent. Et moi je leur dirai alors, gratuitement, s'ils font partie malheureusement de cette liste qui est en vente au moment où on se parle. Alors ce qui est très rigolo, c'est quand j'ai diffusé la brève sur mon blog, j'ai eu 2-3, sur plusieurs dizaines de milliers de lecteurs, c'est pas grave, hein, mais 2-3 personnes qui se plaignaient que je ne donnais pas suffisamment bien les informations ou les détails très précis. J'ai très clair avec vous, je vais vous le dire. J'ai la preuve de 4 sociétés de la fameuse pépite cyber high-tech française qui, après avoir lu mes infos sur mes blogs, allaient carrément contacter les entreprises qui pouvaient être citées en leur proposant leurs services. Donc du coup, moi, il est hors de question que je fournisse de l'actualité pour que des gens s'en servent pour des fins commerciales. Donc je me suis dit, écoutez, si vous avez un site internet et que vous pensez être impacté, envoyez-moi un mail et je vous dirai si oui ou non vous êtes impacté et surtout, comment alerter, comment prévenir vos clients, comment contacter la Commission nationale informatique et des libertés et aussi toutes les démarches à mettre en place pour déposer plainte. Donc voilà, ça c'est ma première actu de la semaine.
C'est quand même assez terrible qu'on réutilise sans gêne les informations que tu de ton travail connect. C'est assez c'est un malaisant, disons.
Ouais, alors après, c'est un blog. Moi, j'ai toujours dit, il a 25 ans, l'actualité est faite pour être partagée, pour être diffusée. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, sauf que c'est arrivé tout le mois de septembre, j'ai eu 4 retours de 4 sociétés différentes. Donc, c'est génial. Elles me lisent, après, à première vue, elles apprécient le contenu. Mais elles s'en servent, oui, allègrement. Alors, ce qu'ils ont oublié, ces braves gens, ces professionnels de la cybersécurité, c'est que moi, toutes mes informations sont communiquées, bien sûr, aux webmasters et aux entreprises impactées, ainsi qu'à la CNIL et ainsi qu'à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Après, c'est un problème avec leur image. Ça, c'est plus mon problème.
Ouais, ben j'ai vu sur ton blog, justement, tu as expliqué que tu avais changé le protocole ZTAS pour être un peu plus... pour te protéger toi-même dans cet espace-là, parce que c'est un peu malheureux que des vautours viennent manger dans ton assiette et conséquemment a des impacts aussi sur ta capacité d'agir.
Ah mais il est clair, hein, c'est ces gens. Alors moi, je ne les appellerai pas des vautours, hein, parce qu'un vautour mange un charognard, donc normalement, je ne suis pas de la viande morte, enfin encore pas tout de suite. Mais oui, et puis c'est aussi une façon de protéger et mes sources, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui veulent passer par le protocole, comme ils le feront par exemple au Hackfest, hein, au mois de novembre, lors du confessionnal Québec. Voilà, moi, je suis le passe-plat qui sait qui contacter pour pouvoir corriger vite et bien. Mais c'est aussi protéger ces gens ou alors même moi d'entreprise qui se dirait voilà, dans leur coin, on va l'attaquer ou lui faire peur ou le menacer qu'il n'en parle pas. Non, l'idée de t'aider, c'est je vous alerte, corriger, mais j'alerte aussi les autorités pour m'assurer que vous respectez bien la loi, vos devoirs, et donc vos devoirs et vos droits face à vos utilisateurs, face à vos internautes, face à vos clients, mais aussi face à vos employés. Donc voilà, c'est le protocole a eu, oui, on va dire, un énorme resserrage de boulons.
Bon, dans la mesure où tu peux continuer à aider le public en général, comme tu fais, c'est très bien en soi, mais en même temps, un peu dommage qu'on doive aller dans cette direction-là. Passons à la seconde nouvelle, piratage, là, t'as une fuite de 350 millions d'identifiants de connexion qui ont été retrouvés dans des bases de données.
Alors là, pareil, bon, vous savez, mon appointance à cybersurveiller, hein, ça fait 25 ans que ZTAS fait ça, regardez au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Voilà, moi, c'est mon métier de veille et de cyberintelligence. C'est d'ailleurs un métier que je vais faire très, très, très prochainement au Canada. Mais toujours est-il que cette cybersurveillance m'a fait suivre cette fois-ci des Malaisiens. Alors, comment je le sais? C'est que très vite, je me suis retrouvé dans une discussion où je ne comprenais strictement rien de ce qu'ils racontaient et de ce qu'ils écrivaient. Donc, du coup, j'ai pris plusieurs outils de traduction et donc, je traduisais ce qu'ils se racontaient. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? C'est que lors de la conversation, au tout début, ils parlaient de plusieurs dizaines de fichiers qui me paraissaient énormes. Alors, ils étaient tous nommés .mp4. Alors au départ, je me suis dit, bon, ça va être quoi encore? De la contrefaçon de film, ça va être peut-être aussi de la pornographie. Mais j'ai continué à lire leur discussion parce que dans la discussion, j'ai très vite compris qu'ils parlaient de modifier le .mp4 en .mtext. .text. Et donc là, je me suis dit, ils sont en train de cacher en fait un format texte en .mp4. Ils essayent de, en tout cas, faire passer ça comme si c'était des vidéos alors que ce n'était pas des vidéos. Et clairement, j'ai cliqué sur l'un des fichiers qu'ils étaient en train de mettre à disposition, là je vais très clairement le dire, hein, sur un cloud lui aussi très très public, vu que c'est méga, et donc je clique sur le fichier, je modifie donc le .mp4 en .texte, et là je tombe sur quoi? Un document avec 2 millions de logins, de mails et de mots de passe. Alors, je l'ai montré à Nicolas parce que je voulais qu'il voit la chose en live. Donc, je lui ai montré la vidéo de la chose. Le problème, c'est que c'est 194 fichiers .texte de 2 millions de logins et de mots de passe de toute la planète. Hein. Alors, moi, dans les chiffres que j'ai un petit peu extraits, parce que vous doutez bien que je n'ai pas téléchargé l'intégralité des fichiers, que j'ai regardé en prenant au hasard certains documents, mais simplement le premier, le texte, alors ça s'appelle exactement test1.texte, eh bien, dedans, j'avais exactement donc 2 millions de mails, de logins et de mots de passe. Il y avait 789 823.com, 793 714.ru des Russes, 195 435 Gmail, 96 697.mail, plus de 62 000 comptes français, mais ça veut dire en .fr, donc il y a très certainement des Français en Gmail et autres qui sont inclus, mais moi j'ai pris que les .fr, et 23 372 Canadiens en .ca. Et ça, c'est que pour un seul fichier, il y en a encore 193 autres à analyser. Et ces garçons, eh bien, pareil, ils sont en train de commercialiser ces petites bases de données, donc exactement 388 millions de logins, d'identifiants de connexion et de mots de passe. Autant dire que ça fait un petit dictionnaire de mots de passe. Pas dégueulasse, ça fait un nombre de mails pour du phishing, du scam, de l'escroquerie, encore plus sympathique. Bref, voilà, c'est des pirates parmi une constellation de gars qui se font un argent monstrueux avec des données qui sont pas protégées. Les entreprises n'en parlent pas quand elles sont piratées, elles sont peut-être pas au courant. Et comme je le dis à chaque fois, je crains pas ce que je sais aujourd'hui. Je crains ce qu'on va apprendre le mois prochain ou dans 3 ans. Parce que cette base de données là qui a été constituée, là, c'est 388 millions. Je ne sais toujours pas d'où ils viennent. Alors, il y a de fortes chances que ça soit des dizaines et des dizaines de sites internet piratés. Il y a de fortes chances que ça vienne aussi de milliers, voire de centaines de milliers de phishing. Mais tout ça accumulé, ça fait quand même une sacrée addition.
Bah, c'est troublant que les pirates sont rendus à ramasser autant puis à revendre tout ce qu'ils retrouvent, puis ce qui enlève un peu la source même des différents... les informations que tu disposes, fait que ça devient anonymisé en quelque sorte la fuite d'informations qui est en arrière. Donc, tous les sites comme Have You Been Pwned sont de moins en moins utiles pour réussir à remonter la trace et à remontrer le fait que notre courriel est un site sur lequel on est utilisateur a été cassé. Donc, l'importance encore plus grande d'avoir un mot de passe différent par site parce qu'on ne sait plus qui va se faire casser. Puis souvent, ces fuites-là, puis on en a vu celle qu'on avait, tu m'avais partagé d'un site canadien. Plus tôt cette année, on ne sait pas de quel site ça a été fuité. Le fuite est encore en continu, c'est-à-dire que le pirate s'abreuve encore à cette base de données-là. C'est une base régulière. C'est à peu près ce que je peux considérer, à peu près aux 3 à 6 mois, il se réabreuve, puis il remet à jour l'information dans sa base de données. Et avec son petit baluchon, puis continue son bon chemin et continue à propager ses mots de passe dans différents black markets et dans le dark web. Le méchant dark web.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, alors moi, j'ai quelques techniques qui me permettent de savoir d'où viennent les informations. Je ne les expliquerai pas, ça fait partie de mon savoir-faire, hein, soyons très clairs. Par contre, effectivement, tu as complètement raison, Nicolas. On comprend mieux maintenant pourquoi il faut avoir un mot de passe différent par lieu qu'on utilise, par site internet, par outil, par ordinateur, petit truc, par objet connecté. Parce que du coup, s'il y a fuite et que le mot de passe apparaît, dites-vous que votre mot de passe devient un honeypot, devient ce petit message, ce petit pot de miel qui vous permettra de dire « Ah ben voilà, ce mot de passe et ce mail viennent de ce site-là. » Donc je sais que c'est lui qui a fuité. C'est un élément qui est loin d'être négligeable. Petit détail aussi important, c'est que pourquoi les pirates aujourd'hui font ce genre d'énormes bases de données ? Eh bien, eux-mêmes, ils ont des outils, ils ont des bots, ils ont des petites lignes de code en Python, tout simple. Eh bien, qui vont commencer à visiter, Domino Pizza, McDonald's, des chaînes de télévision, des chaînes de sport, des sites pornographiques, des casinos. Et ils les testent, les comptes. Et si jamais les comptes fonctionnent, ils ouvrent des boutiques parallèles. Et donc, ils se disent, ben voilà, Damien, il est sur YouPorn, il est sur Pornhub, il est sur l'équipe de baseball, il est sur McDonald's. Eh bien, je vais être vendu 4 fois. Parce que 4 fois, mes comptes sont pour 4 boutiques différentes. Et souvenez, on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois, je vous avais parlé de ces cartes de fidélité. Les cartes de fidélité aussi se vendent. Et donc, du coup, dans ces mots de passe, dans ces 388 millions de données que j'ai trouvées là, il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des accès à des cartes, je sais pas moi, Petro, par exemple, pour votre carte de fidélité d'essence, pour votre carte de cinéma. Et ça aussi, ça se vend. Ça aussi, c'est du business. Et pour les pirates, pour ce genre de population, dites-vous qu'ils vont vous vendre, non pas une seule fois, qu'ils vont pas vous utiliser une seule fois, mais toutes les possibilités possibles imaginables. Et si donc du coup vous vous transformez en couteau suisse parce que vous avez utilisé le même mot de passe partout, honnêtement, il va pas falloir pleurer après. C'est de votre faute.
Ça va être excessivement dangereux. Puis on a une accélération de toute façon du stockage des mots de passe dans les internets. Ce qui fait que c'est encore plus problématique que si on tombe dans les bases de données. Là, on parle souvent de fuite chez Amazon, par exemple, où les gens vont casser les systèmes, donc ils sont capables de drainer. Puis il y a probablement beaucoup de systèmes qui sont drainés de partir d'Amazon. Mais il y a le géant dans la pièce, il y a quand même Microsoft qui synchronise son annuaire principal, qui est un Active Directory, de toutes les entreprises qui sont consommateurs de Azure. Donc, dans la mesure où toutes ces informations se retrouvent dans des tonnages chez Microsoft. Et là, je ne qualifie pas la sécurité de Microsoft elle-même, mais que la sécurité de ses utilisateurs du service de Azure, comme on voit chez Amazon aussi d'ailleurs. Donc, on se retrouve avec une espèce de phasage qui va encore amplifier les mots de passe qu'on va retrouver dans le dark web. Et ensuite, maintenant, il n'y aura plus de mots de passe qu'on pourra utiliser parce qu'ils vont tout être trouvés puis ils vont tout être cassés par tous et chacun qui vont nous avoir utilisé notre petite identité à gauche et à droite. Donc, c'est quelque chose qui va fascinant.
Ce qui va suivre. Alors, c'est rigolo, hein, parce que là, tu parlais d'Amazon S3. Moi, je parlais de Mega, mais il y a aussi Ghostbin, qui est une source d'informations phénoménale, de fuites de données où les gens sont planqués. Et je vais être très clair avec vous, hein, en ce moment, je regarde très près un cloud russe, cloud.mail.ru. C'est, je pense, très honnêtement, l'antre de l'un des elfes, des gnomes du Père Noël. Parce que là, je sais pas ce qu'ils font les mecs, mais c'est vraiment un lieu de stockage de fuite de données phénoménal. Et là où c'est super vicieux, pour le peu que j'ai pu voir sur 10 antres de cyberstockage de données piratées, certes c'est en Russie, mais il y en a 8, croyez-moi, c'est pas des Russes qui cachent les informations.
Voilà. Et de toute façon, puis ça me rappelle aussi, il y avait eu une campagne de phishing qui avait eu lieu plus au début de cette année où on voyait justement des mots de passe qui étaient joints à un courriel pour faire peur aux gens. En tout cas, une partie du mot de passe qui était joint au courriel pour faire peur aux gens. Cette campagne-là roule encore un peu plus en silencieuse que les autres, mais quand même, c'est un des axes qui sont utilisés pour ce genre d'informations-là. Fait que c'est infini, puis on ne se voilera pas la face, comme tu aimes bien dire. Toutes les campagnes comme Emotet qui roulent, qui sont depuis début septembre, qui sont revenues en force, réutilisent beaucoup de ces structures-là, réutilisent beaucoup les courriels qui ont été fuités dans le dark web, réutilisent, fait que c'est une source infinie de petits travails. Tu parlais de script Python et ça en est un axe parmi tant d'autres qui réutilisent ces informations qui sont devenues férales et qui sont retournées à la nature. Et passons à la nouvelle suivante qui est dans le fond, un rançon logiciel, un ransomware, qui, dans ce côté, il est très spécifique de ce que tu vas parler, mais on en a aussi beaucoup qui circulent dans l'environnement. Là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de temps en temps la possibilité d'avoir, par les spécialistes de la cybersécurité, mais surtout les éditeurs d'antivirus, des décrypteurs. Donc, ça permet, en tout cas pour les machines qui ont été prises en otage, de pouvoir déchiffrer les machines qui ont été prises en otage. Malheureusement, c'est pas toujours super efficace. On en trouve énormément sur nomoreransom.org, hein, qui est quand même un site internet qui en regroupe plusieurs dizaines, qui pourrait éventuellement vous aider en cas de problème. Et les derniers, justement, en place de décrypteurs, permettent de travailler sur les ransomware Yatron et FortuneCrypt, qui permettent donc, si jamais vos machines ont été impactées par ces deux rançongiciels, hein, vous savez, hein, c'est le logiciel qui prennent en otage vos machines et vous rendent les fichiers si vous payez. Bien sûr, on ne paye pas. Eh bien, voilà, sur le site que je vous ai cité tout à l'heure, hein, donc nomoreransom.org, eh bien, vous allez pouvoir télécharger ces deux nouveaux décrypteurs. Maintenant, ça peut ne pas fonctionner parce qu'on le sait très bien, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'en face, on commence à avoir des gens de plus en plus professionnels, de plus en plus forts, pardon du terme, pour fabriquer ce genre d'armes numériques de véritables nuisances contre les particuliers et les entreprises, et qu'ils les font évoluer aussi leur ransomware. Donc c'est pour ça que la meilleure des solutions pour vous, on vous le rappelle, et on continuera de vous le rappeler, parce que les mises à jour humaines, c'est limite si on ne doit pas faire tous les jours. Mettez à jour vos machines, mettez à jour vos logiciels, mettez à jour votre cerveau et surtout, faites des sauvegardes.
Tout à fait, tu fais référence à ce qu'on a parlé dans le pré-show. Effectivement, il y a une campagne, la campagne des Emotet est particulièrement virulente. On commence à voir basculer des techniques et des tactiques qui sont utilisées de façon professionnelle contre dans le temps du spear phishing, dans le sens des attaques ciblées. Maintenant, on se voit de plus en plus aller voir dans les attaques grand public. Fait que c'est un peu troublant de voir cette bascule-là, puis ça continue à s'accélérer. Fait que c'est une course qui n'a pas de fin. Et même si on est qu'à l'heure des décrypteurs, comme tu mentionnes, dans ce cas-ci, mettez à jour vos systèmes, tenez-vous à jour absolument, c'est essentiel. C'est prendre la seule façon de se faire ça, parce qu'en plus, au-delà que les tactiques changent et évoluent, les exploit kits qui sont utilisés demeurent quand même relativement âgés, n'évoluent pas très vite, parce que c'est quand même très dispendieux à élaborer un nouveau exploit kit, des nouvelles façons. Fait qu'ils font juste des petites variantes par-dessus, mais qui échappent à la plupart des outils qu'on retrouve à la maison. Dans les entreprises, heureusement, on est un peu mieux outillés, on est capable de mieux se défendre contre ça, mais ça n'empêche pas que les petites entreprises sont peut-être moins bien outillées et peuvent se retrouver à être touchées par ce genre de choses. Dernière nouvelle de Damien, qui est un arnaque téléphonique qui, franchement, je l'ai écouté en pre-show, sublime.
Oui, alors il faut savoir que les arnaques sur les internets, il y en a partout. Hein. C'est limite si vous prenez un couteau avec plein de petites lames et que le pirate invente une nouvelle lame toutes les heures pour nous arnaquer. Là, la nouvelle arnaque, c'est une arnaque au téléphone. Vous avez des gens qui, ici en France, en Europe, parce que des cas ont été repérés en Belgique et en Espagne, eh bien, vous téléphonez et vous dites, ben voilà, vous venez de gagner, vous avez été tiré au sort, hein, votre numéro de téléphone a été tiré au sort, numéro de téléphone qui est soit fabriqué aléatoirement, soit trouvé dans des bases de données revendues ou tout simplement accessibles via Google, hein, par exemple. Et ils vous téléphonent et ils vous disent, ben voilà, vous venez de gagner 500 euros, 1000 euros, donc ça fait aux alentours de 1 000 $ de cadeaux ou de bons d'achat. Et pour ça, il faut appeler un numéro de téléphone. Eh bien, vous savez quoi? J'ai téléphoné. On écoute.
Sandra, votre code, bonjour.
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, à qui ai-je l'honneur?
Alors, je m'appelle Sébastien, bonjour. J'ai eu quelqu'un de chez vous qui m'a dit qu'il fallait que je vous donne le code
DA4. A4, d'accord, évidemment, monsieur, toutes mes sincères félicitations. Votre numéro de téléphone a été tiré au sort et vous avez gagné que ce soit un bon d'achat convertible en des articles ou bien un chèque d'argent, d'accord?
D'accord.
Donc, monsieur, je vais vous donner le numéro du service validation confort au plus.
D'accord.
Avez-vous de quoi noter, s'il vous plaît?
Oui, j'ai un crayon et un papier.
D'accord. Donc, le numéro confort plus, c'est 089.
089.
Double zéro. 95.
691. Je vous le redis, hein.
Évidemment.
089. 00.
Oui.
95. Oui. 691.
Évidemment, toutes mes sincères félicitations. Tout de suite, contactez ce numéro.
D'accord. D'accord. Je peux vous poser une petite question?
Oui.
Vous avez un superbe accent. Vous êtes de où?
Merci, je suis d'origine tunisienne.
D'accord, magnifique. Ah, vous appelez de la Tunisie, là?
Vous connaissez? Nous sommes à Paris.
D'accord.
Et je suis d'origine tunisienne.
D'accord.
Est-ce que vous connaissez la Tunisie?
Un tout petit peu, mais je vous avoue que ça donne du soleil, c'est très plaisant.
Merci, vous êtes très aimable, en fait.
Petite,
merci, je vous en prie.
De rien. Petite oui? question, vous travaillez pour Intermarché ou alors vous êtes un call center qui appelle les gagnants?
Non, monsieur, nous sommes la société Intermarché et vous validez avec confort plus, d'accord?
Ah, d'accord. Je vous remercie bien, en tout cas.
Je vous en prie. Donc, avant tout, votre numéro est bien bloqué avec votre code gagnant, le DA4, pour vous assurer la gratuité de l'appel, d'accord?
D'accord. Merci bien.
Même si vous tombez sur un répondeur, dites-le, ça ne vous concerne pas.
D'accord.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir, à tout de suite.
Donc voilà, tu vois Nicolas, on entend donc cette jeune femme adorable qui m'explique donc que j'ai gagné mon cadeau et que le numéro de téléphone qu'elle m'a donné, c'est un numéro surtaxé. Quand j'appelle, ça coûte 3 euros, donc un petit peu plus de 3 $ l'appel. Et en plus, il y a un répondeur derrière. Ne quittez pas, votre interlocuteur va vous répondre. Ou alors, ça vous dit « Ah ben non, vous n'avez pas gagné, à bientôt ». Pire encore, l'une des arnaques, c'est que vous tombez bien sur quelqu'un qui vous dit « Vous avez le catalogue du magasin ?» Alors là où ils sont très forts, c'est qu'ils appellent au moment où le catalogue est distribué dans les boîtes aux lettres. Hein. Et ils vous disent, allez, vous avez maintenant 10 minutes pour choisir n'importe quel cadeau dans votre petit catalogue. Vous en avez pour 1000 euros. Et donc, j'ai vu hein, des papy-mamies qui m'ont expliqué avoir cherché avec leur interlocuteur au téléphone en disant, je voudrais ça. D'accord, donnez-moi le nom, donnez-moi la référence. Et donc, les papy-mamies ont choisi 10, 15 cadeaux. Sauf que ça n'a pas duré 10 minutes. Ça a duré 29 minutes. Autant dire que ça coûte non seulement très très cher et c'est une belle arnaque. Alors la personne que vous avez entendue là au téléphone, il y a une chance sur deux qu'elle n'est pas du tout au courant elle-même de l'arnaque. C'est des call centers où des escrocs font appel à leur service en leur disant « Ben voilà, toutes les personnes qui vous appellent, vous leur donnez ce code et ce numéro de téléphone-là. C'est pour ça que cette personne que vous avez entendue, cette charmante jeune femme, elle est convaincue de travailler pour une société. Sauf qu'elle fait partie d'une chaîne d'escroquerie, mais elle ne le sait pas, elle.
Ouais, ben de fait qu'ils ont atomisé tellement les parties de la fraude que c'est justement cette personne-là. Et de toute façon, elle a l'air très charmante. Tu une très belle conversation que tu as avec elle aussi, et tu quand même as cherché un peu d'informations sur elle, où tu l'as amené à parler un peu davantage sur ce qu'elle fait. Et clairement, elle est d'une candeur face à ce genre de situation qui, je ne peux pas penser qu'un fraudeur puisse avoir ce degré de candeur-là dans ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu troublant, mais on s'en va, on sous-traite.
Et c'est pour ça que j'ai utilisé un tout petit peu de social engineering avec cette charmante dame, mais on l'entend dans sa voix, elle est convaincue par ce qu'elle raconte, elle est très heureuse de parler de son pays. Elle est contente un petit peu de parler de ce qu'elle fait, mais on voit qu'à la fin, et c'est pour ça que j'ai arrêté de poser des questions, on voit qu'elle a été briefée. Attention aux questions qu'on peut vous poser. Ne perdez pas trop de temps avec le client pour pas qu'il se sente lésé ou il pense perdre de l'argent. Donc, il suffit de lui dire ça à cette charmante jeune femme. Hein. C'est pour ça qu'à la fin, elle dit « Appelez maintenant notre service et vous allez voir, en plus, c'est gratuit. » Elle retournait dans son catalogue de questions-réponses. Mais clairement, là, on entend que dans sa voix, et je vous cache pas que j'ai rappelé ensuite, je suis pas tombé sur elle, où là, j'étais un petit peu plus pas virulent, hein, ça, je me permettrai jamais, mais leur dire, mais attendez, c'est une arnaque ce que vous êtes en train de faire. Ah non, non, attendez, nous, c'est un contrat que nous avons avec cette société. Et donc, ils sont clairement pas au courant. Sauf que quand les autorités vont débarquer chez elle, ça va être plus compliqué.
Ouais, c'est ça, c'est pas autant la personne au téléphone qui est dans... Qui est problématique que celui qui a pris le contrat de qui est associé à ce genre de choses-là, qui est plus... Moi, ce que ce contrat-là moi, est plus gris et moins légitime, donc c'est eux qui devront répondre de ces actes-là et de ces choses-là, parce que si on ne peut pas laisser courir ça, parce que les gens ne sont pas outillés, donc c'est aux forces de l'ordre d'intervenir et de venir aider les gens et d'enlever ces initiatives-là du marché pour les tasser. Puis allons avec la dernière nouvelle qui est la mienne, qui est au Québec. On a eu une très grande nouvelle cette semaine. Le ministre Kerr, le ministre de la Transformation numérique du Québec, a annoncé la mise en place d'un centre de cyberdéfense pour le gouvernement du Québec. Dans le fond, c'est une initiative qui va servir à ramasser, concentrer toute la connaissance en cybersécurité au gouvernement du Québec dans une unité centrale. En tout cas, sous les formes, mais on ne sait pas encore comment ça va faire. Et ils vont former les gens pour les aider à être mieux outillés, plus mieux préparés par rapport à ce genre de choses. Cette initiative-là suit le fait de tout ce qui s'est passé l'été dernier au Québec, où ça fait grand presse que Desjardins et les autres compagnies au Québec ont connu des avaries en cybersécurité. Donc, je trouve une très belle initiative. Il faut voir. J'ai entendu beaucoup de commentaires négatifs, malheureusement, face à cette initiative-là. Tant qu'à moi, laissons-leur la chance de courir un peu, voir de quoi ils sont faits. Puis si les bons moyens et les bonnes stratégies sont en place, je pense qu'on a une capacité de rehausser l'espace de cybersécurité au gouvernement du Québec. Et pour ce que je connais de cet environnement-là, je sais que les grands ministères ont de l'argent et sont bien outillés, mais les petits ministères le sont moins, puis on pourrait les comparer à des PME ou ils ont une ou deux personnes en TI, ils n'ont probablement pas de personnes spécialisées en sécurité. Donc, ils sont très dépendants d'une structure centrale qui, dans ce cas-ci, va être mise en place. Fait que je pense qu'on va avoir un bénéfice généralisé de ce genre de choses-là. Puis, ben, laissez-les s'exprimer avec ça.
Et puis, on va les inviter à venir au Hackfest à Québec les 1 et 2 novembre. Venez assister à une conférence, amis du gouvernement. Je vous aime.
Effectivement, ce serait intéressant qu'ils se présentent dans ce genre de lieu-là. Je sais qu'il y a plusieurs employés du gouvernement qui sont présents au Hackfest. Tant qu'à ouvrir la porte comme ça, ben, on pourrait inviter le ministre Kerr et ou des personnes qui sont impliquées là-dedans au Sécur, qui a lieu en avril, ce qui donne un espace de temps plus grand pour commencer à nous expliquer où sont rendus les états de leur initiative et ainsi de pouvoir faire un état de situation. Somme toute, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, puis je ne peux avoir que du positif qui va sortir de cette initiative-là.
C'est clairement que du positif, oui, tout à fait. Ouais.
Donc, ça termine l'épisode 123. On a encore beaucoup de choses qu'on vous a entretenues. On va essayer de sortir les épisodes plus rapidement. Moi, j'ai été particulièrement pris dans le travail puisque, comme vous avez pu voir l'été passé et ça s'allonge, c'était très, très demandant en cybersécurité. Puis, je pense
c'est
que
pas vrai, il était en vacances.
Ah, seulement si c'était vrai. Bref, que de folie. Fait que sur ce, bonne semaine.
Bonne semaine à tout le monde. Ciao, ciao.